des livres plein les oreilles. Bonjour tout le monde, je suis Clotilde Sey, très heureuse de vous accueillir à l'émission Des livres plein les oreilles. Alors aujourd'hui au programme, un roman attendu d'ailleurs comme le sont tous les livres d'André A. Michaud. C'est sorti simultanément sur papier et en audio il y a quelques jours. Ambiance glauque à souhait d'ailleurs. Une ambiance dont on peut cependant difficilement sortir quand on s'y perd. Vous savez, le genre de bouquin que vous prenez le soir et que vous ne parvenez pas à éteindre la lumière, sauf si les paupières se ferment avant l'ampoule de service. Alors, après Bondré et Route secondaire, voici Tempête, enregistrée par l'autrice dans les studios de Vues et Voix. Et je vais m'entretenir en ce début d'émission avec André A. Michaud. Autre sortie attendue chez Audiolib après le succès remporté par les deux premiers épisodes, Astérix est de retour. Astérix Gladiateur et Le Tour de Gaulle d'Astérix, lu par des comédiens, tous aussi formidables les uns que les autres. Et puis, écouter des extraits de livres audio dans une cabine téléphonique. Bonne idée, hein ? Eh bien, ça se fait en France. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ça se ferait pas ici ? Une autre rencontre également au programme avec un éditeur, cette fois-ci Erwan Le Seul, directeur d'Édito, qui est une division de chez Gallimard. Il est déjà partenaire de Vues et Voix sur quelques titres audio de notre catalogue. On va lui demander pourquoi un éditeur se décide à se lancer dans l'aventure de l'audio. On va retrouver un peu plus tard à l'émission l'excellente Claudia La Rochelle qui a ouvert pour nous deux bouquins, Soif d'Amélie Nothomb, son petit dernier, et le petit dernier de Sorge Chalandon, Une joie féroce. Et puis, parlant de nouveautés, j'en aurai d'ailleurs aussi pour vous à la toute fin de l'émission, pas moins aujourd'hui, pas moins de 12 extraits de livres audio à vous glisser entre les oreilles. C'est ça, cette émission.
Un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé. Qu'est-ce que le spasme de vivre? La douleur que j'ai. Tous les étangs gisent, gelés. Mon âme est noire, où vis-je, où vais-je? Tous ces espoirs gisent, gelés. Je suis la nouvelle Norvège. D'où les blonds ciels s'en sont allés. Pleurs et oiseaux de février, aux sinistres frissons des choses. Pleurs et oiseaux de février, pleurez mes pleurs, pleurez mes roses, aux branches du genévrier. Ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé. Qu'est-ce que le spasme de vivre? À tout l'ennui que j'ai, que j'ai.
Quand la pluie s'atténuait, j'ouvrais le pot de peinture, noir de jais, que j'avais rebaptisé Bloody Mary. Un verre de rouge à la main, je traçais alors des lignes sur le mur. Je dessinais des arbres, une forêt d'automne, une fresque naïve qui redonnait des couleurs au temps gris. Ces trois jours se sont ainsi déroulés entre le crépitement tranquille de la pluie et le glissement du pinceau sur le mur. Un glissement au son mielleux qui me rappelait que des milliers de fleurs allaient bientôt couvrir de jaune la neige oubliée. Le soir, je me postais devant la baie vitrée, sur laquelle je n'avais pas nettoyé le crachat de Franck, et je guettais l'apparition de l'homme de pierre, que l'absence de lune rendait invisible, mais qui s'approchait lentement, qui reprenait sa lente avancée au même endroit chaque nuit, sur le chemin boueux, ses pieds de plus en plus gros s'alourdissant de la vase dans laquelle il s'enfonçait, un homme de glaise qui sécherait au soleil et viendrait s'effriter sur le pas de ma porte.
Andréa Michaud, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'émission Des livres pleins les oreilles. Ça, c'est vraiment un réel plaisir.
Bah, c'est un plaisir pour moi aussi d'être ici, Clotilde.
Vous êtes en studio parce que vous avez arpenté beaucoup les couloirs de Vues et Voix, puisque c'est vous qui avez lu le petit dernier de Andréa Michaud, le vôtre, Tempête. D'abord, parlons de cette expérience de lecture.
Bon, je dois vous avouer que c'est une expérience de lecture qui m'a donné, comment dire, une leçon d'humilité, parce que c'est pas si facile que ça, lire un texte, même lire son propre texte, et j'ai tendance à faire de très longues phrases, mais il y a aussi le fait qu'en le lisant, on voit ce que je ne fais jamais, je lis certaines phrases, certains passages à haute voix, mais jamais un roman entier, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que si j'avais vu avant, je les aurais modifiées, quoi. Ma lecture à voix haute m'a donné un autre point de vue sur mon texte. Et là, je me suis promis que pour le prochain roman, je le lirai à voix haute.
OK.
Pour voir ces petites choses qui ne nous apparaissent pas quand on fait une lecture silencieuse.
Fort intéressant. Vous n'êtes pas la première auteure à me dire ça du tout. Et est-ce que ça peut changer l'écriture d'un autre bouquin?
Changer l'écriture, je sais pas, mais permettre de peaufiner un petit peu, de travailler le rythme ici et là, de repérer certaines répétitions qui sont pas toujours visibles au premier abord.
Tempête, donc, c'est sorti en audio il y a maintenant 2 jours. En imprimé aussi, est-ce que c'est une concordance de sortie?
Oui, en principe, la sortie voilà. Est... La même date, le 24 septembre.
On est hot, vous savez. Oh là là, on est dessus. Souvent, Andréa, on me demande ce que je lis. Parce que j'ai plein d'amis, plein de gens qui écoutent l'émission, puis qui se demandent toujours quelles seront les prochaines personnes que je vais recevoir. Quand j'ai répondu que je lisais votre dernier livre, Tempête, à la question de quoi ça parle, parce que c'est toujours la question qui vient après, j'ai simplement répondu, ça parle de tourmente, de tourmenté, sur fond d'enquête policière, mais c'est pas l'essentiel, de destin croisé, de disparition, et ça parle de la peur, celle qui s'ancre au fond des êtres et autour d'un massif. Est-ce que c'est un bon résumé?
C'est très très bien résumé, oui.
Je voudrais vous proposer de commencer par la fin, mais vraiment la toute fin. Vous remerciez entre autres, bon évidemment plein de gens qui vous ont aidé, je pense qu'ils sont très importants, je pense à Daniel Lorrain qui a assuré la direction artistique de Tempête et vous dites que c'est de façon remarquable. Et vous finissez en disant, je remercie enfin Pierre Montchom pour ses encouragements continuels, pour ses conseils et pour n'avoir pas pris ses jambes à son cou après avoir lu mon manuscrit.
C'est une blague, mais c'est sûr que c'est un livre très angoissant. Et puis bon, je lui lançais cette blague-là parce que mon précédent roman, Route secondaire, à un moment donné, je lui avais fait lire les toutes premières pages, bon, les 50 premières pages, disons, et il était descendu me voir dans mon bureau et il avait dit « Ma blonde, t'es folle ». Bon, alors, bon, c'était pour le relancer okay. un petit peu.
Et là, qu'est-ce qu'il vous a dit? Rien?
Non, il n'a pas considéré okay. que j'étais folle, mais bon, c'est une blague entre nous parce que je travaille toujours sur des sujets très très sombres, oui. où la folie est omniprésente. Alors,
oui.
Mais je dis toujours que pour parler de folie, il faut quand même soi-même être très cohérent, parce que si on parle du lieu de la folie, bon, on tombe dans l'incohérence, mais c'est pas mon cas, en fait.
Par contre, pourquoi ce choix?
Parce que la folie me fascine, parce que les extrêmes où l'être humain peut aller me donnent envie d'aller voir, de fouiller un petit peu dans les sous-bassements de tout ça, de voir comment ça peut se passer, comment on peut, d'une situation normale, petit à petit, sombrer jusqu'à tomber dans une folie irréversible. Mmh. Et c'est le cas de la narratrice de la première partie, qui au départ est une femme bon un peu fragile, mais qui est quand même très solide et qui, à cause de tout ce qui va se passer autour d'elle, à cause de la tempête qui va l'emprisonner dans un lieu isolé, va tranquillement commencer à dérailler.
Ah, exactement. Mm-hmm. Et la façon dont vous l'écrivez, ça je l'avais déjà remarqué dans vos précédents livres, avec Andréa Michaud, il y a personne qui va ouvrir une porte. On va savoir comment elle l'ouvre. Vous comprenez ce que je veux dire? Avec un coup de hanche ou avec... Donc rien n'est laissé au hasard. Mm-hmm. Quoi. S'il y a une pluie sur une voiture... Elle va enlever les petites choses de pain là, qui restaient coincées dans les essuie-glaces et elle va la dépoussiérer.
J'aime que mes lecteurs voient ce que moi je vois quand j'écris. J'aime qu'ils l'entendent, j'aime qu'ils le sentent. Je pense que l'écriture est d'abord et avant tout une activité très sensuelle, comment on perçoit les choses. Et puis ensuite, on rationalise. Une fois que la scène, si on veut, est passée par une appréhension sensuelle, ensuite, je rationalise. Mais je veux que le lecteur autant que possible, voit ce que moi je vois quand j'écris.
Quand il y a de la boue, on a les pieds dans la boîte. Non, mais vraiment, les odeurs, les parfums, les douleurs, on est vraiment dans la réalité, nous. Parlant de réalité, je prends une phrase de votre livre, on ne sait jamais de quelle façon commence un mauvais rêve. Mmh. À tout moment, il y a des peurs, donc des peurs réelles ou fictives. Mmh.
La peur, oui, est un peu le moteur du texte, le moteur de l'action. C'est la peur qui va pousser mes personnages à agir ou tenter de s'en sortir.
OK, là, on est dans la fiction ou on est dans l'onirisme?
Oui, j'aime laisser croire parfois que tout se passe dans l'esprit du personnage, alors que non, ça se passe pas seulement dans son esprit. Certaines choses, il les vivent réellement.
Qu'est-ce qu'on peut révéler sans rien révéler? Par exemple, sur votre deuxième personnage, que j'ai adoré.
Oui, c'est que, bon, Éric Dubois, le personnage en question, décide de, bon, et là je ne révèle rien non plus, l'écrivain dont il était le nègre se suicide et après coup, lui, il décide d'essayer d'endosser l'identité de cet écrivain et il va se réfugier dans un camping sur le bord d'une rivière, la Red River, où il pense être capable de terminer le roman que Chris Julian, l'écrivain, n'a pas terminé. Et tout va s'enchaîner à partir de là, parce que le roman était commencé, il avait pour cadre cette rivière, et si on veut dire, là, il va y avoir une espèce de croisement entre réalité et fiction, avec lequel Éric Dubois va devoir se
composer, se débattre. Et on est de l'autre côté de ce massif bleu, et c'est de l'autre côté qu'est la maison de cet Adrien, l'oncle de la première personne qui est le personnage principal de la première partie du livre. Alors, des gens qui disparaissent, des gens dans la nuit, des personnages, ça fait peur hein, parfois. Hein. Moi, je vous avouerai que quand j'ai fini le bouquin, il pleuvait ce matin-là. D'ailleurs, je m'attendais à ce qu'il y ait de l'orage. Puis il y avait des fois, j'étais contente que ma petite chienne soit près de moi. Quoi. C'est pas, mais c'est sûrement pas votre but, André A. Par contre.
Ah ben oui, tout à fait. Mon but, c'est de faire peur dans ce roman précisément. Je voulais m'essayer à l'horreur. Alors j'ai dit, voyons voir si je peux faire un roman qui fasse réellement peur. Je sais que certains de mes précédents romans peuvent aussi faire peur, mais là, c'était mon but. Et quand on me dit, oui, j'ai eu peur en lisant ton roman, ben, je suis contente parce que c'était le but que je m'étais donné.
André A. Michaud, je rappelle qu'on parle de ce livre, Tempête, qui vient juste de sortir sur imprimé, mais également en version audio. D'ailleurs, les gens qui peuvent entendre en ce moment cette entrevue ont certainement écouté le livre, et puis écoute peut-être de façon régulière Des livres pleins les oreilles, qui est cette émission dont la vocation est de parler des livres audio que nous produisons ici, mais que tout un chacun produit sur la planète. J'ai remarqué que les mots qu'on associe au climat, on peut les associer au climat humain, c'est-à-dire à l'intériorité humaine.
Tout à fait.
On parle de dépression, je suis dans la tourmente, comment vas-tu? Oh là là, je vis des turbulences en ce moment. Est-ce que ça peut être un point de départ pour un livre comme celui-ci?
Je l'ai pas vu comme ça, mais c'est tout à fait vrai que la tourmente qu'il y a à l'extérieur, les personnages la vivent intérieurement. Et le livre s'intitule Tempête parce qu'il y a d'une part tempête d'hiver sur un versant de la montagne, et un peu plus tard, quelques mois après, orage, ouais. Orage à répétition sur l'autre versant de la montagne. Ouais. Et ces tempêtes vont aussi avoir une influence sur le tempérament de mes narrateurs et sur leur façon de réagir aux événements auxquels ils sont confrontés.
Mais vous avez dû travailler beaucoup sur la structure.
Oui, ça m'a donné quelques mots de tête, mais je travaille toujours beaucoup sur la structure. Mais dans ce cas-là, c'était très délicat parce que je combinais deux histoires qui, au départ, n'avaient pas réellement de lien. Alors, j'étais forcée de créer des liens,
ouais.
Et de beaucoup retravailler le texte, bon, de modifier des parties pour que tout ça s'imbrique et que ça demeure vraisemblable.
Alors, Andréa Michaud, je vais vous souhaiter vraiment bonne chance. J'espère que ce livre va bien se vendre, va être écouté, parce que c'est un régal de bouquin. Faut pas croire tout ce qu'on a dit dans cette émission. C'est pas vrai que vous allez trembler de peur et que vous n'allez pas dormir. C'est pas ce genre de frisson-là. C'est un frisson littéraire, ça c'est certain. Alors je vous souhaite à vous, Andréa Michaud, et à Tempête, la meilleure des chances. On vous remercie d'être venu le lire par vous-même. Vous avez été une lectrice et une femme très agréable à fréquenter ici, au sein de nos studios. Et puis cette voix, si particulière qui colle si bien à votre écriture. Merci beaucoup, Andréa Michaud.
Ben, merci à vous aussi. Derrière la maison, j'ai découvert les bandes de peinture noire qu'Adrien avait commencé à appliquer autour d'une fenêtre qui ressemblait à un œil outrageusement maquillé. J'ai également découvert la double trappe qui protégeait l'entrée de la cave, sur laquelle de minuscules bonhommes allumettes sortaient de leur hibernation. Des petites créatures à l'allure aussi grotesque que celle du bonhomme qui hurlait sur le panneau électrique. Je me suis rapprochée pour examiner ses dessins et j'ai reconnu le pendu, manipulé avec soin, qui tendait un bras vers une figure qui portait une jupe triangulaire pour bien signifier qu'il s'agissait d'une femme et qui était coiffée de longs cheveux secs qui partaient dans tous les sens, ce qui pouvait suggérer la folie ou la fougue du vent. Il ne fallait toutefois pas s'y tromper, car si le vent avait été en cause, le triangle de la jupe aurait été incliné. Les cheveux auraient également été moins raides, assouplis par le souffle qui les aurait fait tournoyer. Il n'y avait aucun vent dans l'espace occupé par le pendu et la femme. Il y en avait par contre un peu plus haut, autour d'une figure dont la posture indiquait qu'elle se déplaçait à l'horizontale, ses petits bras maigres, de la grosseur d'un fil, grands ouverts pour atténuer l'impact de la chute ou apprendre à voler.
Un deuxième extrait, celui qu'on vient d'entendre de ce livre Tempête, signé Andréa Michaud, que je remercie encore de s'être déplacé ici en studio. Ce qui est fantastique avec une émission comme celle-ci, c'est que vu qu'il y a un nombre incalculable de genres littéraires, il y a aussi un nombre incalculable de sujets différents que j'ai à vous proposer. Alors, de Tempête d'Andréa Michaud, nous voici arrivés dans l'univers d'Astérix, de Goscinny et Uderzo.
Morphine, faites tiédir à la casserole un grand verre de pétrole. je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion tranché très fin.
Et un peu de poivre en grain.
Non. Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, de cuillère de purgatif, et faites bouillir à feu vif. Je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, tiédir du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre.
Et un peu de sucre en poudre.
Non,
on comprend rien.
Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra pour adoucir le mélange. Pressez trois quartiers d'orange.
Je vais en mettre un seul.
Décoré de fruits confits, moisi dans du verre de gris, tant que votre pâte est molle.
Et un peu de vitriol.
Non!
Franchement.
N'importe quoi.
Non, mais pas vite, vite.
Hey!
Oui!
Ah, je savais que ce serait bon.
Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles? Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles? Des Gaulois.
Christine Tassan et les imposteurs, ça c'est une vieille chanson des filles qu'elles avaient reprise, mais depuis elles ont fait pas mal de nouveaux disques. Mais si vous aimez un petit peu ce qui balance, faut-il le rappeler? Christine Tassan et les imposteurs, c'est le seul groupe féminin à toucher au swing de M. Django Reinhardt. Et j'aime mieux vous dire que ça déménage, que ce soit sur disque comme sur scène. Alors tout ça pour m'amener vers non pas une, mais deux nouveautés chez Audiolib. C'est enregistré là-bas, chez nos partenaires, camarades français à Paris. C'est enregistré, c'est plus que des livres audio, il faut le dire. On parle là carrément de livres théâtralisés avec du bruitage, avec des musiques, et puis surtout avec 8 comédiens, 8 voix exceptionnelles pour jouer les rôles que vous connaissez bien dans la série d'Astérix. Alors, 2 livres, je vous le disais. Le premier, c'est Astérix et Gladiateur. Le thème, pour empêcher Assurance Taurix de finir dévoré par les lions. Pendant les Jeux du cirque, Astérix et Obélix relèvent tous les défis et enfilent leur costume de gladiateur. Mais en attendant, avant qu'ils enfilent ce costume de gladiateur, nous, on va les retrouver dans la forêt avec le druide et quelques Romains.
Au revoir, Astérix. Je vais me promener dans la forêt.
Au revoir, Assurance Taurix.
Non.
Hein?
Assurance Taurix ne va pas dans la forêt.
Ta sollicitude me touche, Obélix.
Mais c'est pas ça. C'est que quand tu chantes dans la forêt, tu fais fuir les sangliers.
Rustre ! Les sangliers apprécient mieux que toi ma musique.
Mais c'est normal. Tu chantes comme un cochon.
Barbare ! Ignorant ! Sauvage !
Dans la forêt...
Capturer un barde, c'est vite dit.
Je suis toujours désigné comme volontaire pour les missions dangereuses. C'est pas juste.
Silence ! J'entends du bruit. Embusquons-nous.
Ah ! Ici, je serais bien pour chanter.
Ils sont
des casquettes !
Oh ! Fuyons ! C'est pas drôle ! Ils ont laissé ces armes secrètes, les Gaulois, qui devraient être interdites par la Commission internationale des effets.
Je vous le disais, hein, c'est pas juste un livre audio. Là, on parle. Ils avaient vraiment un bruiteur avec eux. Ces 8 comédiens-là, il y a entre autres Dominique Pinon qui fait la narration. Il y a des gens comme Bernard Allan. Bernard, il fait Panoramix le druide. Enfin bon, vraiment des pointures pour ce nouvel épisode d'Astérix, donc en livre audio. Et il y en a un autre, c'est le Tour de Gaulle d'Astérix. Astérix et Obélix se lancent dans un tour de Gaulle gastronomique, mes amis, pour provoquer les Romains. Alors, à chaque région et sa spécialité culinaire, et on va retrouver également pour chaque région son lot de surprises. Et j'ai un autre extrait pour vous que j'ai pris évidemment sur le site d'Audiolib. Si vous voulez découvrir ces livres-là et vous les procurer, vous faites simplement Audiolib. C'est le pendant un petit peu de ce que Vues et Voix fait au Québec, mais en France. Extrait.
Plus tard, Astérix et Obélix, entourés par leurs compagnons, préparent l'itinéraire de leur voyage. Ils prévoient de mettre le cap vers Lutèce, en passant par Rotamagus. Puis, ils iront à Camaracum, au nord, et à Durocortorum et Divodurum, à l'est. Ils prendront ensuite la direction du sud, avec Luc Dunum, Nicae et Massilia, puis continueront vers l'ouest, où ils s'arrêteront à Tolosa, Aginum, Burdigala et enfin Jésocribate. De là, ils prendront le bateau pour rentrer en Armorique.
Astérix, voici une gourde de potions magiques qui te donnera la force nécessaire pour un si long et périlleux voyage.
Merci, ô Panoramix, notre druide.
J'emporte un menhir, Astérix. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'un menhir.
Non, non, prends plutôt un grand sac pour y mettre les denrées que nous allons acheter dans les différentes villes de Gaulle. Il serait bon, ô Abraracoursix, notre chef, que vous attaquiez par le sud pendant que nous filons vers le nord.
Compte sur nous, Astérix.
Obélix, mon ami, allons-y.
Après toi, Astérix.
Et c'est le grand départ du Tour de Gaulle.
Et pour en savoir plus, évidemment, sur Astérix et ce Tour de Gaulle, eh bien, je vous recommande vraiment de vous procurer ces deux nouveaux livres audio chez Audiolib. Eh bien, l'heure tourne, mes amis. Je vais vous laisser une minute ou deux, le temps peut-être d'aller prendre un petit verre d'eau. Et puis, au retour, je vais vous présenter une très heureuse initiative française. On parle là d'une cabine téléphonique. Et ce n'est pas une cabine pour y parler, mais c'est une cabine pour y entendre, puisqu'on vous propose des extraits de livres audio. Je me suis dit, quelle bonne idée. Puis ensuite, une rencontre avec un éditeur d'ici, Erwan Le Seul, éditeur et directeur d'Edito. À tout de suite. Livre plein les oreilles, la suite. J'aime bien lire aussi ce qui se dit, ce qui s'écrit dans le domaine du livre audio ou des nouvelles qui se rapportent de près ou de loin, des textes qu'on peut se glisser par les oreilles au creux de notre petit cerveau. Et je suis tombée sur un texte, une espèce de blog dans ID Books. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, mais en tout cas, vous savez, je suis très à l'affût de tout ce qui se fait, de tout ce qui bouge dans le milieu du livre audio. Et j'ai trouvé cette espèce de papier d'Elizabeth Sutton qui nous fait part de quelque chose qui m'a semblé très intéressant. On se transporte, je pense que c'est à Nantes que ça se fait. Vous savez, c'est à l'occasion... Pourquoi j'ai dit vous savez pas du tout, parce que je vais vous l'apprendre. Alors j'enlève vous savez. Comme on ne peut pas couper au montage, on fait semblant qu'on est en direct. Alors, à l'occasion, mes amis, du centenaire de la librairie Coiffard, que tout le monde connaît, évidemment, qui est une... c'est à Nantes, donc en Bretagne, en tout cas dans le coin, là, à l'ouest là, de la France, il y a, à l'occasion du centenaire de cette librairie, une cabine téléphonique qui a été installée. Alors, à l'ancienne, vous savez, là, les vieilles cabines téléphoniques, qui a été installée pour écouter des livres audio. C'est vraiment génial. Cette librairie nantaise, en partenariat avec l'éditeur Audiolib, celui dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt avec les Astérix qui viennent de sortir, ils ont revu, en fait, et corrigé le principe de la cabine téléphonique. Et parmi les nombreuses manifestations qui vont être organisées par cette librairie, eh bien, entre autres, on peut se rendre sur le toit de l'ENSA, qui est l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes, pour découvrir cette cabine où vous pouvez écouter 25 extraits de livres audio. C'est génial parce qu'il y a encore des gens qui se disent « Ah, oh, le livre audio, je ne suis pas sûr que ça me tenterait de ça. » Ben, allez faire l'expérience si vous allez à Nantes un de ces jours. En fait, moi, si je vous raconte ça, c'est parce qu'on est loin de Nantes, évidemment, mais je me suis dit « En voilà une idée qu'elle est bonne. » Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça, nous, à un moment donné, à Montréal, mettre tiens, par exemple, sur le promontoire, sur le Belvédère, en haut de la montagne. T'imagines, t'écoutes des livres audio avec la vue absolument magnifique sur la ville, ce serait quand même quelque chose. C'est pour ça que ça m'a semblé intéressant, j'avais envie de vous en parler. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre comme extrait? Bien, par exemple, on peut entendre un extrait de Frère d'âme, de Monsieur Diop. On peut entendre, alors il y a à la fois et des nouveautés et des classiques. On peut entendre un extrait de Le nom de la rose, d'Umberto Eco. On peut aussi se laisser tenter par Petit pays de Gaël Faye, lu par lui-même, ou encore de Si c'est un homme de Primo Levi. Alors on trouve également des extraits de livres qui sont, je vous le disais, beaucoup plus classiques. Par exemple, L'écume des jours de Boris Vian, lu par Arthur Ashe, ou encore Le joueur d'échecs, de Stefan Zweig, lu par cette voix absolument sublime qui est celle d'Edouard Baird, ou Baird, si vous préférez. C'est donc une initiative originale que j'avais envie de vous partager, puis j'ai envie qu'il y ait du monde qui m'écoute, puis qui se dise « Oh, tiens, la bonne idée qu'elle est bonne, et on va en faire autant. » Et puis, comme tout est prétexte ici à entendre des extraits, bien voici un extrait de « L'écume des jours » de Boris Vian, lu par Arthur Ashe.
« L'écume des jours » de Boris Vian, lu par Arthur Ashe.
Vous avez raison, Nicolas. À votre avis, dois-je rencontrer l'âme sœur aujourd'hui? Je voudrais une âme sœur du type de votre nièce. Monsieur a tort de penser à ma nièce, dit Nicolas, puisqu'il a peur des événements récents que Monsieur Chic a fait son choix le premier. Mais Nicolas, dit Colin, j'ai tant envie d'être amoureux. Une fumée légère s'échappa du bec de la bouilloire et Nicolas alla ouvrir. Le concierge montait deux lettres. « Il y a du courrier ?» dit Colin. « Je m'excuse, monsieur, » dit Nicolas, « mais les deux sont pour moi. Monsieur attend-il des nouvelles ?»« Je voudrais qu'une jeune fille m'écrivît, » dit Colin. « Je l'aimerais beaucoup. » « Il est midi, » conclut Nicolas. « Monsieur désire-t-il son petit déjeuner ?» Il y a de la queue de bœuf broyée et un bol de punch aux aromates avec croûtons beurrés d'anchois. Nicolas, pourquoi Chic ne veut-il pas venir ici déjeuner avec votre nièce, à moins que je n'invite une autre jeune fille? Monsieur m'excusera, dit Nicolas, mais j'en ferai autant. Monsieur est certainement assez beau garçon. Nicolas, dit Colin, si ce soir je ne suis pas amoureux pour de vrai, je collectionnerai les œuvres de la duchesse de Beauvoir pour faire pièce à mon ami Chic.
Je bois systématiquement. Les amis de ma femme, je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante, la vie est-elle tellement vivante, je pose ces deux questions. vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je vois systématiquement, pour oublier le prochain jour du terme, je bois systématiquement, pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs, pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
Allez, je vous propose de vous retransporter à Nantes. On va ouvrir la cabine téléphonique, on va mettre un casque sur la tête et on va choisir, tiens, Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, lu par Édouard Baird. Vous savez, cet inconnu qui arrive et qui fait des ravages dans le milieu des échecs, qui gagne toutes les parties, y compris contre les meilleurs du monde. Et là, on se demande, mais qui est cet individu-là? C'est, en gros, là, résumé, là, c'est ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais mettons qu'au départ, c'est ça. Mais ça, c'est la superficialité de l'histoire de M. Zweig. Et là, je ne résiste pas à l'envie de vous faire entendre la voix d'Édouard Baird dans un extrait de Le joueur d'échecs.
Un soir d'hiver, tandis que les deux partenaires étaient plongés dans leur jeu, on entendit tinter de plus en plus près les clochettes d'un traîneau qui glissait à fond de train dans la rue. Un paysan, la casquette blanche de neige, entra précipitamment, demanda au prêtre s'il pouvait venir sur le champ administrer l'extrême onction à sa vieille mère qui se mourait. Le curé le suivit sans tarder. Le maréchal des logis, qui n'avait pas encore vidé son verre de bière, ralluma encore une dernière pipe et se mit en devoir de renfiler ses lourdes bottes pour s'en aller, lorsqu'il s'aperçut tout à coup que le regard de Mirko restait obstinément fixé sur l'échiquier et la partie commencée. « Eh bien, veux-tu la finir ? » dit-il en plaisantant, car il était persuadé que le jeune endormi ne saurait pas déplacer un seul pion correctement sur l'échiquier. Le garçon leva timidement la tête, fit signe que oui, et s'assit à la place du curé. En 14 coups, voilà le maréchal des logis battu, et en plus, obligé de reconnaître qu'il ne devait pas sa défaite à une négligence de sa part. La seconde partie tourna de même. « Mais c'est l'âne de Balaam !» s'écria l'ecclésiastique stupéfait lorsqu'il rentra. Et il expliqua au maréchal des logis, moins versé que lui dans les Écritures, comment 2000 ans auparavant, semblable miracle s'était produit, une créature muette ayant soudain prononcé des paroles pleines de sagesse. Malgré l'heure avancée, le curé ne put réprimer son envie de se mesurer avec son protégé. Mirko le battit lui aussi, aisément. Il avait un jeu lent, tenace, imperturbable, et ne relevait jamais son large front penché sur l'échiquier. Mais la sûreté de sa tactique était indiscutable. Ni le maréchal des logis, ni le curé ne parvinrent les jours suivants à gagner une seule partie contre lui.
Je regrette un petit peu de vous avoir présenté ça de façon... C'était un petit peu léger comme présentation, mais pour un sujet quand même très, très lourd, que c'était sûrement pas évident dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Mais ça, c'est une véritable fable hein, qu'il avait écrite, M. Zweig. C'est paru en 1943, donc c'était un an après son suicide. Et c'est une espèce de regard désespéré, finalement, j'ai envie de vous dire ça comme ça, sur cette époque sanglante qui est la deuxième guerre mondiale, l'occupation, le nazisme. etc., etc. Quand on sait ce qui est arrivé à M. Zweig, on comprend mieux à ce moment-là la lourdeur des propos et qui se cache derrière cette espèce de jeu d'échecs qui est bien plus qu'un jeu, bien évidemment. Livre que je vous recommande ô combien, que ce soit en imprimé ou encore si vous avez envie de vous glisser ça dans les oreilles. Petite musique entre deux, et puis ensuite je vais m'adresser à Erwan, le seul qui est déjà entré en studio, éditeur de métier. C'est intéressant de savoir comment est-ce qu'on devient éditeur, pourquoi est-ce que tout d'un coup on a envie de se lancer dans le livre audio. Ce sont les questions que je vais lui poser dans quelques secondes.
You want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want to drive, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat. And I'd clog your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. Got a sleeper moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything.
Leonard Cohen qui fait littéralement partie de la vie d'Erwan Le Seul que j'accueille maintenant. Bonjour Erwan.
Bonjour Clotilde.
C'est merci ça, de ton invitation.
Mais ça me fait plaisir. Donc, finalement, tu l'as quasiment dans ta soupe, dans ton salon.
Oui, absolument. En fait, ça a commencé même il y a un peu plus de 20 ans quand je suis arrivé à Montréal, parce que je le croisais régulièrement sur la rue Mont-Royal, et j'étais assez fasciné de le voir passer à chaque fois. Et j'avais entendu sa voix, évidemment, sur disque quand j'étais en France. Et ensuite, voilà, j'ai suivi sa carrière, j'ai acheté ses albums, et jusqu'au moment où j'ai réussi à acquérir les droits de la biographie que Sylvie Simmons avait faite de lui. Oui.
Et qu'on attendait, parce que ça faisait déjà quelques années.
Ça faisait des années qu'elle avait été publiée aux États-Unis et dans tout le monde anglophone. Et les droits francophones n'avaient jamais été achetés parce que c'était une brique phénoménale. Et les coûts de traduction étaient absolument incroyables.
Ah, je comprends.
Et comme l'auteur Sylvie est une Américaine, on ne pouvait pas avoir de subvention à la traduction ici au Canada.
Ah oui?
Oui.
Bah ça, c'est une loi que j'ignorais complètement.
Exactement, c'est ça. Donc, on acquiert des subventions uniquement quand les auteurs sont canadiens.
Alors, Erwan, on va commencer par le début. Donc, tu es arrivé, toi, il y a une vingtaine d'années, c'est ça?
Oui, 20 ans.
20 ans tout juste. Exactement. Mais alors, autrement dit, tu avais 9 ans quand tu es arrivé.
Oui, malheureusement, un petit peu plus. La 50e année arrive l'année prochaine, donc.
Et tu l'as fait tellement pas, c'est épouvantable. Mais bravo, je suis contente pour toi.
Faire partir le cœur léger.
Mais tu étais déjà dans le milieu de l'édition?
J'étais déjà dans le milieu de l'édition, oui, absolument.
Chez Gallimard déjà? Non,
non, pas du tout. Dans une maison d'édition qui n'existe plus d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec mon départ de la France, mais c'était une maison d'édition qui avait un réseau de représentants qui faisaient du porte-à-porte pour vendre des grandes encyclopédies en plusieurs volumes. Ah oui. Voilà, donc c'était totalement un autre métier.
Alors, on devient comment éditeur?
De façon détournée, je dirais, parce que moi, ça n'a pas du tout été un chemin tout tracé. J'étais parti dans une autre direction, dans la restauration. J'étais directeur de restaurant, en fait, depuis quelques années. J'avais été maître d'hôtel dans des grands traiteurs parisiens. Et puis finalement, ça me nourrissait. C'est-à-dire que ça remplissait mon compte en banque, mais ça ne nourrissait pas beaucoup
l'esprit,
le cœur. Ouais. Alors, j'ai pris un temps de pause. Et puis, pendant ce temps de pause, j'ai réalisé que mes deux grandes passions, c'était la musique et la lecture. Depuis tout petit, je passais mon temps... Quand je ne lisais pas, j'écoutais de la musique, en fait. Alors, je me suis dit, pourquoi je ne travaillerais pas dans une maison d'édition ou dans une maison de disques? Et finalement, j'ai fait quelques démarches. Et la première proposition que j'ai eue, c'était pour assister à un auteur de chansons qui écrivait une grande histoire de la chanson française.
Non.
Donc, ça alliait mes deux passions. Alors, j'ai passé l'entrevue, j'ai décroché job.
C'était qui?
Pierre Gros, qui a écrit des chansons notamment pour Diane Dufresne.
Ah oui, mais oui.
Et puis, pour plein d'autres... d'autres personnes très connues. Et c'est ça, il écrit une collection sur la chanson française en 5 volumes. Alors, je me suis retrouvé... embrigadé dans l'aventure. Et là, j'ai découvert que c'était un métier que j'aimais.
Bon, Erwan, tu as donc, ici à Montréal, tu as travaillé pour Gallimard, entre autres.
Oui, là, je travaille actuellement pour Gallimard.
Et tu travailles pour Gallimard parce que c'est une division. C'est un petit peu flou.
Oui,
c'est pour ça aussi que je voulais que tu nous l'expliques.
C'est ça. On a créé Edito il y a 6 ans. Moi, à l'époque, j'étais vice-président aux Éditions de l'Homme. Je travaillais aux Éditions de l'Homme depuis 12 ans. Avant cela, j'avais travaillé chez Leméac pendant 2 ans et demi. Et puis voilà, donc j'étais aux Éditions de l'Homme et la directrice générale de Gallimard Canada est venue me proposer de monter une structure québécoise pour Gallimard.
Ok, donc c'est simplement parce que c'est ici, mais c'est toujours la maison mère à Paris.
Voilà, absolument.
Okay, d'accord.
Mais Gallimard est implanté sur le territoire canadien depuis longtemps,
depuis
une quarantaine d'années. La librairie Gallimard va fêter ses 30 ans. Ça fait longtemps que Gallimard est installé ici et œuvre pour la littérature et pour les écrivains.
Quelle est la spécificité d'Edito? Qui est le nom de la maison d'édition en question?
Allumé, inspiré, transmettre.
Ouais.
Je dirais que c'est beaucoup ça. Ouais. Ce qui me plaît, moi, dans les livres que je publie, c'est d'essayer d'apporter ou des outils ou de l'inspiration pour initier un mouvement, changer des choses dans sa vie, se faire du bien, guérir.
Et là, toi qui adore toujours la musique, la chanson et la littérature, avec Leonard Cohen aussi, c'était un projet. C'était évident que s'il y avait un éditeur qui devait sortir ça à Montréal...
Vous savez, tu sais que le titre, c'est vraiment un hasard absolument incroyable. J'ai appris que, je savais que cette bio existait, puis j'ai appris que deux traductrices françaises l'avaient traduite sans avoir de contrat avec aucune maison d'édition. Et c'est ça qui a été le déclencheur. J'ai rencontré ces traductrices, je leur ai parlé, on s'est entendu et la biographie, finalement, s'est faite, a été publiée au Québec avant qu'elle soit publiée en France, 2 ans avant. Donc c'est vraiment, ouais. C'est ça la vie d'éditeur, c'est qu'on tire sur des ficelles qui sont à notre portée à un moment donné, et puis les choses se font, elles ne se font pas.
On va revenir sur ces ficelles et sur la vie de l'éditeur. Avant, je voudrais qu'on écoute un extrait justement de I'm Your Man, de Leonard Cohen, ben, en tout cas de la bio de Leonard Cohen, lu par Marie-Josée Forget.
Ladies and gentlemen, Mr. Leonard Cohen.
Ladies and gentlemen, Mr. Leonard Cohen. Sorti en 1965. C'est un documentaire en noir et blanc composé de séquences filmées par Don Owen au cours de la tournée de lecture des quatre poètes et de scènes inédites tournées par Donald Britton, réalisateur à l'Office national du film. Dans cette deuxième partie illustrée d'une bande-son jazzy, on voit Leonard faire tout un tas de choses cool dans les endroits les plus cool de Montréal. Une voix hors champ lui attribue un talent singulier perceptible dans les 4 livres déjà parus. Beautiful Losers était terminé, mais pas encore publié. Le film eut beaucoup plus d'impact sur sa notoriété que l'ensemble de ses prix littéraires et l'album Six Montreal Poets. C'est un film étrange, qui oscille entre reportages promotionnels et incursions dans le quotidien de Leonard. On le suit au bistrot, on l'accompagne le long des rues qu'il arpentait au temps de son adolescence, on s'arrête pour admirer l'affiche d'un vieux film devant un cinéma admirablement délabré. On le regarde lire un poème à des jeunes femmes subjuguées,
I will starve till profits
arborant les coiffures volumineuses et le maquillage des années 1960,
I will bleed till angels bind me.
Ou bien encore, lire le même poème à des amis, Mort, Layton, Hershorn, May, en s'accompagnant à la guitare.
Moi, je rêve du jour où les livres audio comme ça pourront être agrémentés aussi avec le son de... Mais ça, c'est parce que c'est très, très complexe.
C'est très complexe au niveau des droits.
Voilà, exactement. Alors là, moi, je peux parce que
oui,
c'est de la radio.
Absolument.
Il n'y a rien de commercial là-dedans. Non. Mais dans les bouquins, malheureusement, on ne peut pas se le permettre. Mais à un moment donné, on ne peut pas se le permettre. On va se le permettre à un moment donné.
Je trouve que ça apporte quelque chose.
Mais oui, ça apporte absolument quelque chose. Le livre audio... Ça, oui. c'est une nouveauté hein, pour vous. Vous n'y avez jamais... Enfin, quand je dis vous, toi et ton équipe, oui. c'est la première fois que vous vous y intéressez ou...
Oui, en fait, ça fait des années que je m'y intéresse.
Oui, OK.
Et jusqu'à présent, je n'avais pas senti que ça fonctionnait assez pour qu'on se lance dans les livres audio. Il s'est passé, je pense, il y a 2-3 ans, quelque chose d'important. Les habitudes de lecture commencent à changer,
pense.
On s'en rend compte avec les livres audio qui commencent à avoir pas mal de succès et aussi avec les podcasts qui ont énormément de succès. Je pense que ça participe du même mouvement en fait, ouais. des auditeurs, lecteurs.
Absolument.
Oui. Absolument. Et voilà, je me suis dit, il faut proposer ce format-là aux lecteurs. Moi, je pense que tous les formats sont bons quand on aime lire. Si on préfère les livres audio, on va se diriger vers les livres audio. Si on préfère lire sur une tablette, on va lire sur une tablette. Si on préfère lire un livre papier, on va lire un livre papier. Je pense qu'il faut que tous ces formats-là
existent,
comme il existe en papier le grand format et le format poche. Il y a des gens qui préfèrent toujours lire en poche et d'autres en grand format. Je pense qu'il faut proposer aux lecteurs tous les formats possibles pour les rejoindre le plus possible.
On va se quitter bientôt, mais avant, il y a deux choses que je voudrais dire en dehors de I'm Your Man. Il y a bien sûr les deux bouquins de Roxane Gay.
Oui, que tu as lu toi-même.
Que j'ai lu, mais ça, je remercie de cette opportunité. Découvrez cette femme-là, son écriture, son vécu, son passif, ses douleurs. Et ses façons aussi de s'en sortir à Roxane Gay.
Féministe américaine absolument remarquable.
Noire, je le précise parce que c'est hyper important aussi, dans sa vie. Et c'est un bonheur que j'ai eu, moi, personnellement, de pouvoir lire ces bouquins-là. C'est vraiment une chance qu'on m'a donnée. Avant qu'on se quitte, vos deux petits derniers, ceux qui vont sortir bientôt,
oui, Rachida's 12, la semaine prochaine,
pas de chicane 12, dans ma cabane.
Sur l'importance de débattre. Alors pendant la campagne,
oui. Oui, c'est vrai.
Politique actuelle, voilà,
dans laquelle,
je pense que c'est important.
Nous nageons. Et puis Fabrice Midal, dont j'avais déjà parlé à l'émission, parce que c'est à lui que l'on doit Foutez-vous la paix. Et là, il revient avec Reprenez votre vie en main, l'art de régler ses problèmes.
Absolument, Fabrice convoque tous les philosophes qu'il aime pour nous aider à régler des problèmes du quotidien. Donc, c'est à la fois intelligent et à la fois pratique.
Et j'ai très hâte que ça se retrouve en audio, comme ça on pourra en parler encore plus à cette émission.
Absolument.
Erwan, merci beaucoup, merci d'exister, merci de faire confiance à Vues et Voix pour ces livres-là. Il va y en avoir d'autres.
Oui, il y en a d'autres qui sont en préparation.
Voilà, absolument. Exactement. Alors je suis vraiment ravie de faire partie aussi de cette aventure-là. C'est avec Erwan Le Seul que je m'entretenais, qui, je vous le rappelle, est directeur d'édition chez Edito, qui appartient à la maison Gallimard, mais c'est vraiment ici, Edito, que ça se fait.
Absolument.
Au Québec, et que ça s'écrit et que ça s'enregistre. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission « Des livres plein les oreilles ». Ne manquez pas, là, en troisième partie, Claudia La Rochelle qui sera des nôtres pour nous présenter une chronique. C'est Clotilde Seille qui dit au revoir à Erwan Le Seul et merci.
Au revoir Clotilde, merci à vous.
Des livres plein les oreilles, suite et fin. Rebonjour tout le monde, troisième partie de cette émission. Mais oui, on vous gâte cette année, 90 minutes. Allez, tout augmente, on ne recule devant aucun sacrifice. Et encore une fois cette année, je reçois... Tout à fait amicalement, je tiens quand même à vous le préciser. Je reçois l'amie Claudia La Rochelle,
oui.
Qui va nous proposer, qui nous propose une chronique par mois, comme ça, parce qu'elle n'a pas grand-chose à faire.
Bien amicalement, très amicalement. Mais on vous aime.
Mais très amicalement. Oui, vous comprenez très, très bien ce qu'on veut dire. C'est pas seulement pour mes beaux yeux, c'est parce que
aussi,
vous savez aussi. Claudia, ça va bien sinon?
Oui, ça va bien. Non, mais je suis très heureuse de te retrouver, Clotilde.
Oui.
Tu sais que je t'aime.
Oui.
Alors bon, voilà.
Allez, on va arrêter ça là, oui. Parce que ça fait un petit peu brossard lui, notre
dérape.
Affaire, ça dérape. Alors,
d'accord.
Soif d'Amélie Nothomb, oui. J'en ai parlé à cette émission il y a quelques semaines.
Absolument.
C'est la nouveauté dont on parle beaucoup partout. Mm. Et d'autant plus que c'est en lice parmi d'autres livres pour le Goncourt. C'est le petit dernier d'Amélie Nothomb. Pour une fois, c'est sorti en audio et en imprimé en France, ce qui est très rare en même temps. Tu as lu ce livre, Claudia. Qu'en as-tu pensé?
Oui, et j'ai lu ce livre-là qui s'intitule Soif. C'est un nouvel opus. Elle revient chaque automne avec un nouvel opus. Amélie Nothomb, là, elle est vraiment très, très assidue. Elle est prolifique. Elle déçoit, parfois elle épate, tu sais vraiment c'est comme ça parce que c'est ce qui arrive aussi pour les écrivains qui en font beaucoup et qui travaillent très fort et qui ont beaucoup une grosse production. Alors cette fois-là, bon visiblement Goncourt sur la liste, alors ça doit être, ça a été bien reçu en France et dans la francophonie. Je dois dire que ce qui est périlleux, c'est de... Permettez-moi l'expression, s'attaquer à Jésus, parce qu'il est question de ça. C'est quand même périlleux, ça prend beaucoup de courage. Je salue son courage. Elle m'a dit, parce que j'ai fait une entrevue avec elle pour le L Québec, et elle m'a confié qu'elle avait mis plusieurs années avant de pouvoir écrire sur ce sujet-là. C'est un sujet qu'elle portait en elle depuis très, très longtemps, parce qu'elle est fascinée par la figure de Jésus, et ça transparaît dans ce roman-là. Depuis la plus tendre enfance, quand son père lui en a parlé la première fois, qui est cet homme qui s'est sacrifié pour nous. Alors, c'est à la base de son interrogation, c'est à la base de ce livre-là, je dirais. Elle entre carrément, et là, c'est pour ça que je dis que ça prend du courage. Il y a quelques années, ça aurait été impensable, c'est sacrilège. Mmh. Maintenant, on peut faire plus de choses. Maintenant, elle est plus loin dans la littérature. Elle entre dans la tête de Jésus. On découvre Jésus de sa mise en accusation, avec les témoins à charge, la condamnation, la souffrance aussi vécue. Alors, elle nous raconte justement qui était cet homme-là, tel que vu par elle, bien sûr. Alors, c'est une vision très personnelle de Jésus. C'est la raison pour laquelle on accepte et on adhère à cette histoire-là. Elle dit que c'est son roman le plus ancien. Elle l'a écrit en 2018, mais il est en elle. Ça paraît qu'elle a porté cette histoire-là très, très longtemps. Ça paraît qu'elle l'a portée plus longtemps que d'autres qui, parfois, d'autres histoires qui avaient peut-être été écrites un peu plus rapidement, on sentait ça, mais cette fois-ci, c'est vraiment achevé, ça, c'est certain. Mm-hmm. C'est un livre où il est question, dans lequel il est question du pardon, d'amour. Et ça, à l'époque actuelle, je pense que c'était le meilleur moment, du moins, pour sortir un livre comme ça, parce qu'on est dans une époque où, je pense, l'amour est plus essentiel que tout, que tout. Mm. Alors, ce livre-là est là.
Et le pardon aussi.
Le pardon, effectivement. La foi en quoi, là, je veux dire, elle y va, parce que c'est pas un livre catho, là, on n'est pas du tout là. On comprend vraiment que la foi, c'est la foi dans le sens de avoir la foi en plus grand que soi. C'est l'espoir aussi qui transparaît dans ce livre-là.
En l'humanité?
Oui, quand même, malgré tout, j'oserais dire. Mm-hmm. Ce qu'il y a de très fort, c'est la force théologique, en fait, qui est là. C'est qu'elle refuse la sublimation de la souffrance. On comprend vraiment qu'elle refuse ça. Parce que, bon, on sait, ça, elle aurait pu tomber dans ça, sublimer la souffrance, tout mm-hmm. ça. Mais on sent vraiment la souffrance de Jésus à travers sa crucifixion, par exemple.
Oui,
donc,
oui.
c'est un roman qui est très marquant dans sa carrière, qui va faire parler, qui fait déjà beaucoup jaser. Je comprends pourquoi elle n'est jamais allée là aussi loin. Mm-hmm. Et c'est intime aussi pour elle. C'est ce qui distingue ce livre-là du reste de sa bibliographie.
D'ailleurs, elle disait à un moment donné, moi aussi, j'ai vu une entrevue, pardon, j'ai pas encore lu ce papier auquel tu fais référence, mais où elle disait que non seulement il est important, mais c'est le plus important,
oui.
dit-elle,
oui.
De toute sa carrière. Elle dit que c'est pas parce que c'est le dernier, mais c'est sûrement le plus important.
Parce que c'est le premier, en tout cas, parce qu'elle l'a écrit depuis qu'elle est née, c'est ce qu'elle me disait. Bon,
exactement.
Bon. C'est une métaphore, là, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Tout à fait.
Elle le porte en elle depuis longtemps. Alors, c'est un portrait, du moins inédit, un portrait personnel de Jésus, mais je dirais qu'elle vise dans le mille parce qu'elle a touché beaucoup de gens avec ça.
Soif, d'Amélie Nothomb, lu par Grégory Baquet. J'ai toujours su que l'on me condamnerait à mort. L'avantage de cette certitude, c'est que je peux accorder mon attention à ce qui le mérite. Les détails. Je pensais que mon procès serait une parodie de justice. Il l'a été, en effet, mais pas comme je l'avais cru. À la place de la formalité vite expédiée que j'avais imaginée, j'ai eu droit au grand jeu. Le procureur n'a rien laissé au hasard. Les témoins à charge ont défilé les uns après les autres. Je n'en ai pas cru mes yeux quand j'ai vu arriver les mariés de Cana, mes premiers miraculés. « Cet homme a le pouvoir de changer l'eau en vin », a déclaré l'époux avec sérieux. Néanmoins, il a attendu la fin des noces pour exercer son don. Il a pris plaisir à notre angoisse et à notre humiliation, alors qu'il aurait pu si facilement nous éviter l'une et l'autre. À cause de lui, on a servi le meilleur vin après le moyen. Nous avons été la risée du village. » J'ai regardé calmement mon accusateur dans les yeux. Il a soutenu mon regard, sûr de son bon droit. L'officier royal est venu décrire la mauvaise volonté avec laquelle j'avais guéri son fils. « Comment se porte votre enfant à présent ?» n'a pu s'empêcher de demander mon avocat, le commis d'office le moins efficace que l'on puisse concevoir. « Très bien, le grand mérite. Avec sa magie, il lui suffit d'un mot. » Les 37 miraculés ont déballé leur linge sale.
Soif, extrait de Soif d'Amélie Nothomb. Est-ce que j'ai senti dans tes propos, pas une réticence, mais est-ce que tu as été...
Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Amélie Nothomb, j'aime beaucoup ce qu'elle mm-hmm. fait. Parfois, je suis déçue, mais Amélie Nothomb fait partie de ces écrivaines à qui je pardonne tout. Ce livre-là, je l'ai peut-être qu'il m'a moins parlé parce que je pense, et ça c'est vraiment dommage, je suis devenue un peu cynique. Alors oui, j'espère casser ce cynisme-là, mais je suis devenue un peu cynique face au pardon, à l'amour, à la foi. faut vraiment que je travaille ça. Mais du moins, au moins, ce livre-là m'aura révélé ça sur moi-même. Ah non, Claudia retrouve un peu la magie, retrouve la foi, cesse de cultiver ce cynisme-là. Mais je pense que c'est pas un livre à lire quand on est journaliste, justement. Alors, c'est ce que je veux dire. Par contre, dans l'entrevue, elle m'a donné un superbe entretien, vraiment, puis pour le Elle Québec, elle disait... parce que je lui ai demandé, le Christ n'avait pas peur de mourir. Vous, avez-vous peur? Elle m'a dit, pas du tout, mais j'ai très peur de celle, la mort, des gens que j'aime. C'est le plus grand problème de la vie. Ma propre mort, ce n'est pas bien grave. Et même, c'est chouette, on peut se dire, quelle aventure je vais enfin connaître. Ça peut être intéressant de mourir. Et ça aussi, elle nous l'apprend. Elle nous apprend ça à travers ce livre-là, Soif, donc.
Il y a un auteur, je pense qu'on peut dire que tu es une inconditionnelle de cet homme-là. Et
comme
on peut,
toi.
Et comme moi, exactement, c'est Serge Chalandon. Mm. Et lui aussi, la France nous fait la joie de sortir en audio en même temps que le bouquin imprimé, ce livre-là, cette joie féroce, une joie féroce. que j'ai pas encore lu. J'ai lu simplement la quatrième de couve, honnêtement. Donc, moi, je ne suis pas au courant. C'est pour ça que je t'ai demandé d'ailleurs de venir nous en parler, ouais. Parce que j'ai très hâte d'ouvrir et de... Non, j'allais dire de refermer. Non, j'ai pas du tout envie
non,
de refermer.
Pas Serge Chalandon, parce qu'on referme toujours non. Trop vite, c'est trop
oui.
Court.
C'est ce que je reproche
toujours à Serge Chalandon. C'est un journaliste, donc esprit de synthèse en lui, possède ça. Il n'y a jamais rien de superflu dans ses livres. Et c'est probablement pour ça aussi qu'on aime Serge Chalandon. Il nous donne au fil de sa carrière des romans chaque fois majestueux, sublimes, avec une écriture poignante, tellement lucide aussi, et très ancrée dans la réalité, très ancrée dans l'actualité. Et cette fois-ci, il ne m'a pas étonnée parce qu'il est allé sur un terreau qu'on connaît, le féminisme, on est là-dedans, mais il a pris sa voix d'homme, sa propre voix à lui. On le sent très impliqué dans ce roman-là. On découvre Serge Chalandon, le féministe. Il s'est inspiré beaucoup de sa femme pour écrire ça, sa femme qui a combattu un cancer. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans ce livre-là, donc, qui s'intitule « Une joie féroce », d'ailleurs, on a cette joie féroce-là. Elle s'infiltre en nous, elle est de plus en plus féroce au fil de la lecture. C'est l'histoire donc de quatre femmes. On suit quatre héroïnes, dont Jeanne, très inspirée de sa femme, justement, qui est une libraire de 39 ans, qui ressemble à nous, qui ressemble à nos amis, qui ressemble à ces battantes qu'on connaît et qui va apprendre, donc, à 39-40 ans qu'elle a un cancer. On découvre aussi qu'elle elle a surmonté le deuil, ou bon, en tout cas, elle est toujours dans le deuil, mais qu'elle a surmonté la mort de son fils. Et avec son mari, ça a été comme l'espèce de point de rupture dans leur relation, bien qu'ils soient toujours ensemble. Mais on sent une espèce de détachement de son mari, un détachement de plus en plus fort. Il y a un passage où elle lui dit « Bon, j'ai le cancer, tu vas perdre tes cheveux, non, non, non. » Alors lui, la déception, il est beaucoup plus inquiet du fait que sa femme va se transformer physiquement que le risque qu'il court de perdre sa femme. Alors c'est troublant, ce passage-là m'a profondément choquée. Et on sent que c'est là que la férocité monte en elle et gronde. Alors, elle va se faire quitter, en quelque sorte, et elle va partir avec trois autres femmes. Trois autres femmes cancéreuses, et elles vont décider de faire un hold-up, donc dans une bijouterie. Et on s'attache à ces criminels-là parce que le but de ce hold-up-là, c'est de ramasser les sous pour aider à payer la rançon d'une petite fille kidnappée. Donc, la rançon qui est demandée par les kidnappeurs. Et on les suit donc dans leur échappée. On sent que ce n'est pas des criminels de métier, quoique pour la plupart. Mais on sent en elles qu'elles portent la rage d'être malade, la rage des hommes aussi, les hommes qui ont abandonné ces femmes-là. Et ce qui est intéressant, c'est que je lisais une entrevue donnée par Serge Chalandon dans laquelle il racontait que dans ses connaissances, il y a plusieurs hommes comme ça qui ont laisser des femmes pendant qu'elles étaient malades. Il dit que c'est plutôt fréquent en comparaison avec le contraire, alors que les femmes vont rester pour mener la bataille avec leur conjoint quand ils sont malades. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tous les hommes.
Non, non, c'est ça. On n'est pas en train de poser un jugement.
Non, pas du
tout. On est en train de faire un constat.
Et ce n'est pas ce qu'il fait non plus dans son livre, mais il a comme remarqué ça. Je pense que ça l'a profondément ébranlé, froissé. Et c'est pour ça, je pense que ça a été le moteur, ce qui a déclenché l'écriture de ce livre-là, qui est une ode aussi à la femme, à la féminité et aux combattantes.
Un extrait.
Matt a tenu parole. Il n'est pas venu à ma première séance de chimio. C'était peut-être mieux comme ça. 4 femmes dans la salle d'attente. 3 étaient accompagnées, la dernière semblait seule. Elle m'a tendu la main en souriant. Brigitte. Lorsque j'étais entrée dans la pièce, elle lisait « Les intermittences du cœur » de Marcel Proust. Un livre, un vrai, avec des pages en papier. Et quand je lui ai dit que cela faisait du bien de rencontrer une lectrice à l'ancienne, elle a ri. « Vous devez être prof de français, vous, non ?»« Non, pardon, je suis libraire. »« Pardon de quoi ?» Elle a ri. « Et moi, chef de cuisine, avec un F ou deux, ce qui vous arrange. » Je me suis installée à côté d'elle, mon sac plastique sur les genoux. En chemin, je m'étais dit qu'il faudrait quelque chose de plus solide pour transporter mes radios, les feuilles de rendez-vous, les convocations, de moins transparent aussi. Dans le métro, j'avais croisé les yeux d'une femme assise en face de moi. Son regard faisait peine. Elle avait remarqué les documents glissés dans ma pochette, les mots qui claquent au matin. Dossier clinique, unité de médecine nucléaire, laboratoire de biologie médicale, centre de pathologie, même le petit guide des informations pratiques, cancer à Paris, édité par la ville. Elle forçait son sourire, hochait la tête, grimaçant des mines désolées. Compassion, affliction. Véronique, prête à essuyer le visage de Jésus. Écœurement.
Encore Jésus, d'ailleurs. Hein.
Et c'est fort. Hein.
C'est fort. Et avec,
c'est
et
puissant.
As-tu remarqué, en plus, parce que depuis que je suis à la tête de cette émission, ouais, et que je lis beaucoup moi-même, non seulement il y a des auteurs qui écrivent de façon sublime, mais c'est lorsqu'on les lit à haute voix qu'on s'aperçoit à quel point le rythme de leur écriture,
ben oui,
est absolument insensé.
Ben, ils écrivent à haute voix aussi. Souvent, les écrivains font,
oui,
cet effet.
Mais tu sais que pas tous. Hein.
Non, c'est ça paraît. Hein. Moi, je suis sûre que lui,
exactement,
le fait.
Exactement. Et là, en plus, ça, c'est lu par cette jeune femme qui s'appelle Véronique Muzzi, je pense, M-U-2-Z-I.
Elle est bonne.
Quelle rythmique.
Ah oui, oui,
elle rythmique.
Elle a compris tout de suite le sens.
Ah oui, oui, absolument, absolument. Merci beaucoup, Claudia.
Ah,
Claudia,
merci.
La Rochelle, une joie féroce. Donc, c'est le petit nouveau de Sorge, ouais, Chalandon.
C'était une joie féroce.
C'était une joie féroce. Merci, yes, beaucoup. Ça porte un nom, hein, quand il y a deux mots comme ça qui se... en principe, on devrait... une joie... Ça peut pas être féroce.
Non,
mais ça porte un nom en français. Je cherche.
C'est pas une antithèse, non? C'est
non,
pas ça.
Il y a un nom beaucoup plus. En tout cas, il faut que ça me revienne parce que ça me fatigue. Ça me fatigue.
On va retrouver. C'est fort, c'est porteur.
Claudia,
oui,
je vais te retrouver avec un grand plaisir prochainement.
Oui, absolument.
Et au moment du Salon du Livre aussi, on va souvent être ensemble.
Oui.
On en reparlera, entre autres, avec ce projet Nelly Arcan.
Absolument.
Merci.
Bye bye.
Musique.
Whisper, jet, clipper, jet, turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie. Qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir? Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan-American. Où je suis rendu, j'ai aidé au sud du sud, au soleil, le blanc rouge, les palmiers et les cocotiers glacés dans les peaux aux esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées farcies. Et toujours la Sophie venait de partir sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western,
puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. Y'avait même une compagnie qui engageait des pigeons qui volaient dans dedans et qui faisaient le ballon pour la tenir dans le vent. C'était absolument, absolument, absolument très salissant. Alors j'ai reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, be Pan American. Je sais plus, 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 je suis rendu. Ma Sophie à moi, a pris une compagnie qui volait sur des tapis de Turquie. C'est plus parti. Et moi, je suis rendu. Je suis rendu à dos de chameau. Mon Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais j'ai plus, je ne sais plus où je suis, où je suis rendu. Puis j'ai fait une chute, une crise de chute en parachute, et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit, avec mon meilleur ami, et surtout mon pot de biscuit, à l'époque que j'avais ramassé. Sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American.
Ah, Lost Joe Lindbergh. Monsieur Charlebois, Madame Forestier, qui est venue à l'émission, j'espère que vous n'avez pas raté cette émission-là. D'ailleurs, si vous l'avez ratée, vous savez que vous pouvez réécouter absolument n'importe quand toutes les émissions des livres plein les oreilles en podcast. Vous pouvez passer par Apple Books ou vous pouvez passer simplement par votre application Balado. Vous pouvez trouver ça absolument partout. Alors, si vous me dites « Oh zut, je l'ai raté », eh bien, c'est pas possible. On ne peut plus rater une émission des livres plein les oreilles parce qu'on peut l'écouter absolument partout. Voilà. Je vous avais dit en tout début d'émission, oh, il y a longtemps, il y a presque une heure et demie, que j'aurais quelques nouveautés à vous proposer, à vous glisser entre les oreilles. Philip Roth, « Le complot contre l'Amérique », lu par Eric Caravaca. C'est une proposition, c'est deux CD, si vous ne l'écoutez pas en format MP3, deux CD audio, c'est une durée d'écoute d'environ 15 heures, donc c'est vraiment une brique, et c'est dans la collection « Écouter lire » Gallimard. Et on en revient au célèbre aviateur Charles Lindbergh, pas par hasard si on avait choisi cette chanson-là, qui a battu le président Roosevelt aux élections présidentielles en 1940. Alors que la peur s'empare des Juifs américains, non seulement Lindbergh avait dans son discours radiophonique à la nation reproché aux Juifs de pousser l'Amérique à entreprendre une guerre inutile avec l'Allemagne nazie, mais en devenant 33e président des États-Unis, il s'est empressé de signer un pacte de non-agression avec Hitler, évidemment, cédant le livre « Le complot contre l'Amérique ». Alors la terreur pénétra dans les foyers juifs, notamment dans celui de la famille Roth. Ce contexte historique alternatif sert de décor au complot contre l'Amérique. Un roman où Philip Roth, qui avait 7 ans à l'époque, raconte ce que vécu et ressenti sa famille et des millions de familles semblables dans tout le pays lors des lourdes années où s'exerça la présidence de Lindbergh, quand les citoyens américains, qui étaient aussi des juifs, avaient de bonnes raisons de craindre le pire. Et ce faisant, il nous offre un nouveau chef-d'œuvre. C'est paru en audio le 22 août dernier dans la collection Écoutez lire de chez Gallimard, et j'en ai un extrait.
Bidding farewell to his mother, Charles Lindbergh climbed aboard the Spirit of St. Louis, the plane he helped design. At 7:52 a.m., Lindbergh set off from Roosevelt Field on Long Island, New York. His goal to fly across the Atlantic.
Pendant près d'une décennie, Lindbergh fut un héros dans notre quartier, comme partout ailleurs. Sa traversée de l'Atlantique en solitaire, 33h30 sans escale, pour rallier Long Island à Paris aux commandes de son minuscule monoplace, le Spirit of St. Louis, coïncidait même avec le jour du printemps 1927, où ma mère s'était découverte enceinte de mon frère aîné. Le jeune aviateur dont l'audace avait fait palpiter l'Amérique et le monde entier avec elle, dont l'exploit annonçait des progrès aéronautiques inimaginables, en arriva donc à occuper une niche toute particulière dans la galerie des anecdotes familiales dont l'enfant tisse l'étoffe de sa mythologie personnelle. Le mystère de la grossesse, joint à la prouesse aéronautique, dota ma propre mère d'une aura quasi divine. L'incarnation de son premier enfant s'accompagnait d'une annonciation planétaire. À l'âge de 9 ans, Sandy allait immortaliser la conjonction de ces deux événements grandioses par un dessin, clin d'œil involontaire à l'art de l'affiche soviétique. Il représentait notre mère à des kilomètres de chez nous, parmi une foule joyeuse au croisement de Broad Street et de Market Street. C'est une frêle jeune femme de 23 ans, à la chevelure sombre, rayonnant de robuste allégresse. Détail curieux, elle est toute seule et porte son tablier de cuisine à fleurs au carrefour le plus animé de la ville. L'une de ses mains repose, doigts écartés, sur le devant du tablier, qui souligne des hanches qu'on croirait adolescentes. Tandis que de l'autre, elle est la seule personne de la foule à montrer le Spirit of St. Louis, bien visible au-dessus du centre-ville. À cet instant précis, elle comprend que, exploit tout aussi triomphal pour une mortelle que celui de Lindbergh, elle a conçu Sanford Ross.
The journey of Charles Lindbergh carried him into the annals of aviation history.
Voilà un autre livre que je vous recommandais, peut-être pour vous le glisser entre les oreilles. Le complot contre l'Amérique, c'est sorti chez Gallimard dans la collection Livre audio Écoutez lire, Le complot contre l'Amérique de Philippe Roth. Les autres livres qu'on vous a proposés aujourd'hui à l'émission, il y en avait en pagaille, mes amis, Tempête de André A. Michaud, également les deux nouveaux Astérix chez Audiolib, Astérix Gladiateur et Le Tour de Gaulle d'Astérix. On vous a également parlé de L'écume des jours de Boris Vian, lu par Arthur H., et du Joueur d'échecs, Le Joueur d'échecs de Stéphane Zweig, lu par Édouard Baird. Et aussi, avec Erwan Le Seul, on a parlé de I'm Your Man, le livre, la biographie de Leonard Cohen, lu ici chez Vues et Voix et que vous retrouvez notamment sur notre catalogue. On a également évoqué les livres de Roxane Gay, c'est-à-dire Affamée et Bad Féministe, que j'ai eu la chance et l'honneur de lire ici également chez Vues et Voix. Et enfin, on a évoqué avec Claudia La Rochelle Soif d'Amélie Nothomb et Une joie féroce de Sorge Chalandon. Voilà, c'est ça l'émission des livres pleins les oreilles qui vous était proposée une fois de plus par Clotilde Seille à la réalisation et à l'animation. Je voudrais souligner l'excellent travail de mon camarade Mathieu Tessier que je remercie beaucoup de l'autre côté de la vitrine. Remercier aussi Claire Guérin qui m'a donné un petit coup de main aujourd'hui pour la réalisation et la recherche de cette émission. Merci beaucoup, Claire. Et puis, merci à vous d'être là. Merci d'en parler. Cette émission existe, encore une fois. Vous pouvez l'écouter sur notre site internet au www.canalm.vuesetvoix.org, mais aussi, encore une fois, en podcast. Ça se trouve absolument partout. Alors, profitez-en et diffusez l'information. Le livre audio, ça existe. Et l'émission des livres pleins les oreilles aussi. Je vous souhaite une excellente semaine. Bonne lecture, par les yeux ou par les oreilles, on s'en fout. Le principal, c'est de lire. Salut!